FTR 14 Radio.
La radio qui forge votre journée.
On n'est pas 27, mais ça rangeait.
Ça se passe au lycée de la Marne, à Forges-les-Eaux. Et sur zonedonde.org. Le 20 et 21 mars à partir de 10h. Intéressons-nous un peu au sport avec Younes, Daniel et Thomas qui vont nous parler de l'actu du foot.
Bonjour à tous, je m'appelle Daniel et aujourd'hui on est avec Younes et Thomas pour parler sur le foot. Comment vas-tu Younes et toi Thomas ?
Moi ça va super et toi Daniel ?
Oui ça va, merci.
Moi aussi ça va super.
Ok. Alors tout d'abord nous allons commencer par un quiz pour connaître vos connaissances sur le foot. Alors on va commencer directement. Première question. Quel club a remporté la première Ligue des Champions sous son format actuel en 1992-1993 ? Le Real Madrid, l'Olympique de Marseille, l'AC Milan et le Manchester United. Younes ?
L'Olympique de Marseille.
Et c'est la bonne réponse. L'OM a battu l'AC Milan 1-0, devenant le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Deuxième question. Quel joueur a inscrit un doublé en finale de la Coupe du Monde 1998 ? Thierry Henry, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario ou Didier Deschamps ? Bah, Younes encore.
Zinedine Zidane.
Et c'est la bonne réponse encore une fois. Zidane a marqué 2 buts de la tête contre le Brésil, offrant la victoire aux Bleus. Troisième question. Quel club est surnommé les Gunners ? Arsenal, Chelsea, Liverpool ou Juventus ? Thomas, à toi.
Arsenal.
C'est la bonne réponse. Le surnom vient du passé militaire du club, lié aux arsenaux d'armement de Londres. Prochaine question. Qui a marqué le but décisif en finale de la Ligue des Champions 2014 pour le Real Madrid ? Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale ou Karim Benzema ? Thomas, à toi.
Sergio Ramos.
C'est la bonne réponse. Sergio Ramos a égalisé à la 93e minute contre l'Atlético Madrid, permettant au Real de s'imposer en prolongation. Cinquième question. Quelle équipe a remporté l'Euro 2004, créant une énorme surprise ? La France, l'Espagne, la Grèce ou le Pays-Bas ? Younes, à toi.
La Grèce.
C'est la bonne réponse. La Grèce, outsider total, a battu le Portugal en finale grâce à un but d'Angelios Charistias. Question numéro 6. Qui détient le record du plus grand nombre de buts en une saison de Première Ligue ? Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland ou Alan Shearer ? Thomas.
Erling Haaland.
C'est la bonne réponse. En 2022-2023, Haaland a marqué 36 buts, battant le record précédent de Shearer et Cole. Septième question. Quel club a remporté la Ligue des Champions en 2021 ? Le Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea ou le PSG ? Younes, à toi.
Chelsea.
C'est la bonne réponse. Chelsea a battu Manchester City 1-0 grâce à un but de Kai Havertz. Huitième question. Quelle nation a perdu 3 finales de Coupe du Monde sans en gagner une ? L'Espagne, les Pays-Bas, l'Uruguay ou le Portugal ? Thomas.
Les Pays-Bas.
C'est la bonne réponse. Les Pays-Bas ont perdu les finales de 1974, 1978 et 2010. Neuvième question. Combien de LDC a remporté Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur ? Une, deux, trois ou bien quatre ? Younes ?
C'est trois.
C'est la bonne réponse. Zidane a remporté 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid. En 2016, 2017 et 2018. Dixième question. Quel joueur a marqué le but vainqueur pour l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 ? Messi, Gonzalo Montiel, Angel Di Maria ou Lautaro Martinez ? Bah, Younes encore.
Gonzalo Montiel.
C'est la bonne réponse. Montiel a transformé le pénalty décisif lors de la séance de tir au but contre la France. Onzième question. Quel est le surnom de l'équipe nationale d'Italie? Les Bleus, la Squadra Azzurra, la Roja ou la Céleste? Thomas.
La Squadra Azzurra.
C'est la bonne réponse. La sélection italienne est surnommée ainsi en référence à la couleur de son maillot. Douzième question. Qui est le joueur ayant disputé le plus de matchs en Ligue 1? Jean-Michel Larquet, Michael Landreau, Didier Deschamps ou Steve Mandanda? Younes, à toi.
Steve Mandanda.
C'est la mauvaise réponse, malheureusement. La bonne réponse était Michael Landreau, qui détient le record avec 618 matchs joués en Ligue 1. Question numéro 13. Quel club français a disputé la finale de la Ligue des Champions 2004? Le PSG, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille ou Lyon? Thomas?
L'AS Monaco.
C'est la bonne réponse. L'AS Monaco a perdu en finale contre le FC Porto de José Mourinho. 3-0. Quatorzième question. Qui est le joueur français ayant marqué le plus de buts en Coupe du Monde? Thierry Henry, Juste Fontaine, Michel Platini ou Kylian Mbappé? Thomas, à toi?
Michel Platini?
Et non, c'est la mauvaise réponse, malheureusement. La bonne réponse était Juste Fontaine, qui a inscrit 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958, un record sur une seule édition. Question numéro 15. Quelle équipe a remporté la première ligue 2015-2016, réalisant l'un des plus grands exploits de l'histoire du football? Chelsea, Manchester United, Leicester City ou Arsenal? Je sais pas qui choisir. Younes.
Leicester City.
C'est la bonne réponse. Leicester a créé la surprise en remportant la première ligue sous Claudio Ranieri. Question numéro 16. Quel joueur est le meilleur buteur de l'histoire du PSG? Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Edinson Cavani ou bien Neymar? Bah, Younes.
Kylian Mbappé.
C'est la bonne réponse. Mbappé a dépassé Cavani en 2023 pour devenir le meilleur buteur du club. Question numéro 17. Quel club a remporté le plus de fois la Bundesliga? Borussia Dortmund, Bayern Munich, RB Leipzig ou Werder Bremen? Thomas?
Le Bayern.
C'est la bonne réponse. Le Bayern Munich a largement dominé l'Allemagne avec plus de 30 titres nationaux. Question numéro 18. Quel entraîneur a remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur? Franz Beckenbauer, Didier Deschamps, Johan Cruyff ou Vincent Del Bosque? Younes, à toi?
Didier Deschamps.
C'est la bonne réponse. Deschamps a remporté la Coupe du Monde 1998 comme joueur et en 2018 comme entraîneur. La prochaine question est... Quel club a remporté la Ligue Europa en 2023? Manchester United, Séville FC, AS Roma ou Arsenal? Thomas?
L'AS Roma, non?
Et non, c'est la mauvaise réponse. C'était Séville FC qui a battu l'AS Roma en finale et détient le record du plus grand nombre de Ligue Europa remportées. Et la dernière question. Quelle équipe a battu le Brésil 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde 2014? L'Espagne, la France, l'Allemagne ou bien l'Argentine? Younes, à toi?
L'Allemagne.
C'est la bonne réponse. L'Allemagne a humilié le Brésil 7-1 en demi-finale. Un match historique. Merci à vous deux d'avoir participé à ce quiz. Et le vainqueur de ce quiz, c'est Younes.
Bah, merci à toi, Daniel.
Et nous allons rester dans le même thème en écoutant la musique « Ramener la coupe à la maison ». Maintenant, nous allons aborder le sujet de la Coupe de France 2025, qui est très passionnante cette année. Nous allons voir cela en détail avec Younes et Thomas. Pour préciser, la Coupe de France est une compétition de football à élimination directe organisée annuellement par la Fédération française de football et ouverte à tous les clubs qui lui sont partisans jusqu'au dernier niveau amateur, y compris ceux d'outre-mer. Alors Younes, qu'en penses-tu?
Alors comme tu l'as dit, cette année la Coupe de France elle est très passionnante, notamment avec l'élimination d'équipes de Ligue 1, des cadors comme Monaco, l'Olympique de Marseille, Lille ou encore Saint-Étienne, même s'ils ne sont pas très bons. Après, ça met en lumière des équipes de division inférieure qui peuvent réaliser de très belles campagnes, comme par exemple Dunkerque, qui sont en Ligue 2. Ils sont en demi-finale à l'heure où on se parle. Ils vont affronter le Paris Saint-Germain. Et l'autre demi-finale oppose le stade de Reims face à Cannes. Et Cannes est une équipe de National 2, si je ne me trompe pas. Donc ils vont affronter le stade de Reims, ce qui promet d'être un beau match. Toi, Thomas.
Oui, on a eu une très belle Coupe de France. Il y a eu beaucoup de clubs amateurs qui ont réussi à battre des Ligue 1. Je pense par exemple au Stade Briochin qui a battu l'OGC Nice, ou même Dunkerque qui a battu encore Lille et Brest juste avant. Il y a eu aussi Espaly qui avait réussi à tenir tête au Paris Saint-Germain pendant de longues minutes, limite jusqu'à la fin du match. C'est la première fois que je vois une Coupe de France où il y a autant de gros de Ligue 1 qui ont été éliminés dès le début, comme ça, par les amateurs. C'est pour ça, je pense, cette Coupe de France, elle a été plus gagnée par les clubs amateurs que les clubs professionnels. Parce que quand on voit le nombre de clubs amateurs qui ont éliminé des clubs pros, c'est extraordinaire. On n'avait jamais vu ça avant.
D'accord. Et par rapport aux équipes surprises, qu'en pensez-vous ?
Pour ma part, en termes d'équipes surprises, j'ai pris le Stade Malherbe de Caen, que sans doute quasiment personne n'en parle. Mais le Stade Malherbe de Caen sont derniers de Ligue 2 avec 19 points, alors que les avant-derniers sont Martigues avec 6 points d'avance. Donc ils ont 25 points, Martigues, ce qui accentue la difficulté pour Caen de se maintenir. Mais qu'est-ce qui a causé cela ? Donc Nicolas Seub, entraîneur de Caen, débute la saison avec un très mauvais bilan, ce qui lui coûtera sa place d'entraîneur en décembre 2024. Avec une élimination en 32e de finale contre Guingamp. Donc, à partir du 3 janvier, un nouveau coach arrive du nom de Bruno Baltazar, un coach portugais. Il rentrera dans l'histoire du club, tristement cette fois, car il va enchaîner 7 défaites consécutives pour sa part. Donc, il va en assumer toute la responsabilité. Donc, le 18 février, Baltazar a été licencié et c'est un nouveau entraîneur très expérimenté qui arrive au Stade Malherbe de Caen, qui se nomme Der Zakarian. Il est encore actif sur le banc du Stade Malherbe de Caen à l'heure où on se parle, mais il admet un bilan très mitigé avec un match nul, une victoire et 2 défaites. On espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 2, car c'est tout de même un club qui est destiné à jouer la Ligue 1.
Et toi, Thomas, qu'en penses-tu ?
Pour moi, mon équipe surprise, ça va être Nottingham Forest. C'est une équipe que de base on a l'habitude à voir en première ligue dans le milieu de tableau. Ils n'ont pas beaucoup de budget, ils n'ont pas grand-chose pour eux, normalement. Et là, cette fois, on les voit à la 3e place du classement en Première Ligue, qui est quand même le championnat le plus difficile au monde à l'heure actuelle. Et on les voit taper des Liverpool, des Chelsea, des Manchester City, alors que de base, ils sont promis au milieu de tableau. Et là, on les voit, ils vont avoir une place pour l'Europe l'année prochaine, alors que tout le monde les pensait morts. Et en plus, c'est magnifique parce qu'ils ont un passé avec plusieurs ligues des champions gagnées auparavant. Et les revoir en LDC, ça fait quand même bizarre parce qu'on a plus les habitudes à les voir dans la zone rouge.
Maintenant, nous allons nous intéresser un peu au nouveau format de la LDC. C'est une compétition annuelle de football organisée par l'UEFA. Elle rassemble les meilleurs clubs européens qui se qualifient en fonction de leur classement dans leurs championnats nationaux. Contrairement à l'ancien format où il y avait une phase de poule déterminée au hasard. Désormais, nous avons affaire à un tout autre format qui est devenu un championnat de 36 équipes pour se qualifier à la phase d'élimination directe. Les clubs doivent disputer 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Au cours de ces 8 matchs, les clubs remportent des points, 3 points pour une victoire, 1 point pour un nul et malheureusement 0 point pour une défaite. Si à la fin, les clubs qui se sont imposés dans les 8 premiers accéderont directement au 8e de finale, contrairement aux clubs classés de la 9e à la 24e place, ceux-là disputent des barrages. Et les équipes restantes sont éliminées. Puis les équipes qualifiées auront des doubles confrontations directes jusqu'à la finale. Et vous, Thomas et Younes, quels sont vos ressentis de ce nouveau format de LDC ?
Alors moi, pour ma part, j'apprécie fortement ce format comparé à l'ancien format, car il y a beaucoup plus de matchs. Les équipes moins favoris peuvent plus se révéler. Je pense notamment à Aston Villa et Lille, car Lille a fini la 7e sur 36e, ce qui est un très bon bilan, car ils ont quand même affronté de très grosses équipes comme l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, et Lille s'est imposé contre ces deux équipes, 1-0 contre le Real Madrid et 3-1 contre l'Atlético Madrid. Je pense notamment à Aston Villa, qui ont terminé 8e, ils ont battu le Bayern Munich. Donc oui, franchement, ce format est d'autant plus surprenant, car par exemple, Manchester City ont terminé 22e de la saison et s'est qualifié au barrage de justesse, mais après, ils se sont fait éliminer par le Real Madrid au barrage.
Moi aussi, j'aime beaucoup ce format. Ça rajoute beaucoup de matchs et ce qui est d'autant meilleur, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de pause. On a toujours, toutes les 2-3 semaines, un petit match de LDC le mardi ou le mercredi. Donc ça, c'est bien, on s'ennuie limite jamais. Par contre, le seul point négatif que j'ai, c'est entre guillemets pour les petits clubs, parce que eux qui ont un effectif réduit, enchaîner autant de matchs dans la saison, on l'a vu par exemple avec Brest, au bout d'un moment, ils n'arrivaient plus à tenir, ils mettaient tout sur la Ligue des Champions, mais du coup, en championnat de Ligue 1, ça, c'était un peu plus compliqué. C'est pour ça, les petits clubs, je trouve, ils sont un peu défavorisés dans ce nouveau format.
D'accord. Et quels sont vos pronostics pour la LDC ?
Mes pronostics, je vais d'abord commencer par la partie gauche du tableau. Alors, Arsenal-Real Madrid, c'est un des duels les plus serrés qu'on attend lors de ces quarts. Mais même si Arsenal a beaucoup de blessés, ils ont par exemple leur meilleur joueur Saka qui est à l'infirmerie, je pense qu'ils vont quand même gagner parce que le Real Madrid, avec eux, c'est tout ou rien. Soit ils font des bons matchs, ou soit ils font comme avec l'Atlético le match retour où ils n'arrivent pas trop à jouer, et les joueurs s'énervent sur le terrain. On a par exemple vu Bellingham s'énerver contre Vinicius. Donc je pense, moi, Arsenal vont gagner contre le Real. Après, PSG, Aston Villa, je pense que le PSG va quand même gagner, mais durement, parce que Aston Villa, c'est pas sous-estimé. Ils arrivent quand même à arracher des matchs nuls contre Liverpool dans leur championnat. Mais d'autant plus avec leur recrutement hivernal, où ils ont réussi à avoir Marco Asensio et Marcus Rashford, qui leur apportent un énorme soutien. Mais je vois quand même le PSG gagner. Après, pour la partie droite du tableau, Borussia Dortmund contre le Barcelone, je pense que le Barça va quand même gagner haut la main parce que Dortmund, ils ont galéré contre Lille et là, ils doivent affronter la meilleure équipe du tournoi, limite. Donc je pense qu'ils vont perdre aisément. Et le plus gros duel qui est l'Inter face au Bayern, je pense quand même que le Bayern va gagner parce que ça va être quand même un gros match. Mais rien que la physionomie que la finale se déroule à Munich chez eux, je pense que ça va peut-être les booster à mieux jouer, mieux concrétiser leurs actions, donc je les vois gagner. Après, pour les demi-finales, Arsenal-PSG, on avait déjà eu ce match en phase de championnat, mais à ce moment-là, le PSG, ils étaient un peu dans une méforme, ils ne savaient pas tirer, ils mettaient tout à côté, ils n'étaient pas dans leur meilleure forme. Là, maintenant, Luis Enrique a réussi à faire que l'équipe devienne une machine bien huilée. Donc je pense qu'ils vont quand même gagner contre Arsenal. Après, Bayern, Barcelone, je pense quand même que Barcelone va gagner parce qu'ils sont vraiment dans une forme exceptionnelle. Pour l'instant, j'ai jamais vu une équipe aussi forte pour l'instant dans cette LDC. Et du coup, je pense que la finale Paris-Barcelone, ça serait quand même une bonne finale parce que ça va opposer les deux prétendants au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé et Rafinha. Donc ça pourrait être intéressant à voir. Et je pense quand même que ça va être serré entre les deux équipes et que ça va se jouer jusqu'aux prolongations.
Ok, merci Thomas de ton pronostic. Moi, je vais donner le mien maintenant. Donc, on va commencer par la partie gauche du tableau. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain contre Aston Villa, je vois une très belle opposition, car Aston Villa sont très sous-estimés, mais ils ont un très bon tacticien, Unai Emery. Ils se sont beaucoup renforcés durant ce mercato hivernal avec l'arrivée de Malen, Disasi, Rashford ou encore Asensio, prêté par le Paris Saint-Germain d'ailleurs, qui va être peut-être boosté, car il va jouer contre son club qui l'a prêté. Et le coach d'Aston Villa, oui, donc c'est l'ancien coach du Paris Saint-Germain dans les années 2017. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain va passer et Luis Enrique va gagner la bataille tactique contre Unai Emery. Donc je vois le PSG passer. Pour ce qui est maintenant de l'autre demi-finale de la partie gauche du tableau, quart de finale, pardon, Real Madrid-Arsenal, je vois plutôt le Real Madrid passer, car Arsenal détient un bon nombre de blessés, notamment sur le secteur offensif, avec Bukayo Saka, leur joueur phare qui est blessé, mais qui sera peut-être de retour. Mais je vois le Real Madrid, même s'ils ne sont pas dans leur plus grande forme, avec l'ADN du club en Ligue des Champions, je les vois passer. Pour la partie droite maintenant du tableau, Dortmund FC Barcelone, je trouve qu'on sous-estime beaucoup cette équipe de Borussia Dortmund, notamment avec leur atout offensif. Pour ce qui est de Serhou Guirassy, il a fini deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions de la phase régulière, ce qui est franchement honorable. Des ailiers en feu comme Gittens et Adeyemi, donc ça va être super, super relevé, une très belle rencontre, mais je vois le FC Barcelone passer. Pour l'autre quart de finale de la partie droite, Bayern Munich Inter Milan. Là, je verrais une surprise pour beaucoup. Donc, je vois l'Inter Milan passer, notamment avec leur doublette en attaque, Martinez et Thuram. Ils vont profiter des espaces bavarois. Donc, je vois l'Inter Milan passer, mais de justesse quand même. Maintenant, pour la première demi-finale qui opposera le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, je verrai là le Paris Saint-Germain passer, même si ce sera un match plutôt spécial, car Kylian Mbappé reviendra jouer contre son ancien club. Mais je vois le PSG gagner au niveau de la bataille, encore une fois, tactique. Franchement, Luis Enrique, il fait un très beau travail au Paris Saint-Germain, notamment avec sa gestion du collectif. Donc je vois le PSG passer, même très largement. Pour ce qui est de l'autre demi-finale, FC Barcelone-Inter Milan, je vois le FC Barcelone passer, mais franchement dans la douleur, soit par une séance de tir au but, soit par une prolongation. Je verrais peut-être le FC Barcelone cette fois sur un exploit individuel qui peut venir de Lamine Yamal ou de Rafinha, mais je vois le FC Barcelone passer dans la douleur. Donc maintenant pour ce qui est de la finale, Paris Saint-Germain FC Barcelone, match très spécial car l'année dernière le PSG on fait une remontada au FC Barcelone 4-1. Franchement les joueurs du FC Barcelone ont cette rage de vaincre contre les Parisiens. Mais Luis Enrique connaît très bien son ancien club, car Luis Enrique, le coach actuel du PSG, a coaché auparavant le FC Barcelone. Donc comme Luis Enrique connaît très bien le FC Barcelone, je pense que le Paris Saint-Germain va remporter sa première Ligue des Champions.
D'accord, bah merci à tous les deux pour vos avis. Et nous allons tout de suite passer à un micro-trottoir dans lequel on pose la question à plusieurs personnes. Pour vous, qui sera le Ballon d'Or 2025?
Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est sur la radio Forstin Radio, et on est en compagnie de...
Younes Yaïch, élève de seconde 4 au lycée de la Mare de Bouteville à Forges.
Donc on est là pour l'émission Actu Foot, et la question d'aujourd'hui c'était: qui est pour toi le Ballon d'Or 2025 et pourquoi?
Alors pour moi, le Ballon d'Or 2025 reviendra à Ousmane Dembélé, car il fait une saison incontestable pour la course au Ballon d'Or. Avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est d'ailleurs en lice sur toutes les compétitions, que ce soit la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Ligue 1. Ils ont d'ailleurs remporté le Trophée des Champions au début. Et donc, pour moi, ça n'ira pas à Rafinha ou à Mohamed Salah, car pour moi, le PSG va remporter la Ligue des Champions. Et c'est très surprenant, car Ousmane Dembélé, on ne l'attendait pas comme candidat au Ballon d'Or, car il fait une saison... à l'heure où on se parle, à 30 buts, toutes compétitions confondues. Donc voilà pourquoi ce Ballon d'Or reviendra à Ousmane Dembélé. Merci.
Merci beaucoup. Ok, donc maintenant on se retrouve avec...
Méliane, élève de seconde au lycée de la Mare de Bouteville à Forges-les-Eaux.
Donc aujourd'hui la question c'est, pour toi, qui est le Ballon d'Or 2025 et pourquoi?
En vrai, je pense Kylian Mbappé, parce qu'en 26 matchs joués, il a 20 buts marqués et 3 passes D en Liga. Et en Ligue des Champions, 12 matchs joués et 7 buts pour une passe D. Il a fait un peu un début de saison catastrophique, mais je pense que c'est le début de s'adapter au nouveau club et tout, ses coéquipiers qu'il ne connaissait pas trop. Et en vrai, je pense que là, il porte bien le Real et que c'est un bon potentiel et qu'il remonte, il est boosté là.
Ils peuvent aller loin en Liga et en Ligue des Champions.
Ouais, grave, je pense que le titre. Hein.
Bonjour, je m'appelle Samuel Caï Moyo, je suis au lycée de la Mare de Bouteville à Forges, en seconde j'étais 5.
Ok, donc aujourd'hui la question c'est qui est le Ballon d'Or 2025 pour toi et pourquoi?
Pour moi le favori du Ballon d'Or 2025 c'est Ousmane Dembélé. Actuellement il a 30 buts et 10 passes décisives je crois. Il joue au PSG Ils sont en liste pour la Ligue des Champions, ils sont en quart de finale. Ils sont qualifiés en Coupe de France. Ils sont premiers de leur championnat de France.
Voilà. Bonjour, je m'appelle Mathéo Ferré. Je suis en seconde et je suis au lycée de la Mare de Bouteville à Forges-les-Eaux.
Donc aujourd'hui, la question c'est pour toi, qui est le Ballon d'Or 2025 et pourquoi ?
Selon moi, il y a deux compétiteurs à ce titre. Il y a Dembélé et Mbappé. Tous les deux ont une trentaine de buts. Et ils jouent une compétition majeure qui est la Champions League. Et selon comment leur équipe s'impose dans cette compétition, c'est déterminant. Si le Real Madrid gagne, ça serait Mbappé. Si le PSG gagne, ça serait plutôt Dembélé.
Ok, merci beaucoup.
Donc, bonjour, je m'appelle Louis Legrand. Je suis en seconde suisse au lycée Delamar de Bouteville à Forges-les-Eaux.
Ok, donc aujourd'hui la question c'est pour toi qui est le Ballon d'Or 2025 et pourquoi il le mériterait ?
Alors pour moi, le vainqueur du Ballon d'Or 2025 sera Rafinha parce qu'il est toujours en Ligue des Champions. Il fait une bonne saison pour le moment. Il a 25 buts et 18 passes décisives. Il est premier de Liga avec Barcelone. Il est en demi-finale de Coupe du Roi et s'il gagne la Ligue des Champions, il aura son Ballon d'Or pour moi.
Merci.
Bah, merci à tous, merci aux auditeurs, merci à tous les participants qui ont participé au micro-trottoir. Merci à toi, Younes.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Thomas. Et nous allons finir cette émission avec une musique dédicacée à Monsieur Félix qui s'appelle « Qui c'est les plus forts ?» Évidemment, c'est les Verts.
Avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains, avec eux nous chantons, Saint-Étienne sera champion.
Fortune Radio.
la radio qui forge votre journée.
On n'est pas 27, mais ça rangeait.
Ça se passe au lycée de la Marne, à Forges-les-Eaux. Et sur zonedonde.org. Le 20 et 21 mars à partir de 10h.